Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Avec François-Jacques,
Félix-Antoine,
Anne-Sophie.
Que Québec se lève.
Au FM 93.
Mesdames et messieurs, veuillez aligner votre ajustement. Aligner votre ajustement. Ajuster votre alignement et ajouter l'homme dont on entend le rire communicatif. On a Vez en plus de ça ce matin.
Eh oui.
Ça va être une journée fantastique. Pas que je vous aime pas, Anne-Sophie puis Félix-Antoine, là. Mais Vez, il amène de la crédibilité à cette émission.
Ah, oh, c'est ça!
C'est généreux, ça.
OK, merci.
On peut dire les enfants.
Ah ben là, je me sens comme mal à l'aise de vous dire les enfants, parce qu'après ça, je suis obligé de le traiter de l'autre extrémité du spectre.
Non, je suis encore. Moi, j'ai 14 ans dans ma tête. Depuis toujours.
Fait que hier.
Depuis que j'ai 14 ans.
Ben c'est ça. Avant hier, donc, t'avais 13 ans dans ta tête?
Non, à 14 ans, j'ai arrêté. J'ai arrêté de progresser dans ma tête.
Ben écoute, je vais le dire tout de suite. Je vais être le premier à te le dire en onde officiellement, je pense. Bonne fête en retard, Vez.
Eh bien, merci en retard.
Fait que hier, c'était ton anniversaire.
Voilà.
Fait que 14 ans, encore une fois.
Ouais, encore une fois.
T'as beaucoup de 14 ans. T'es rendu à ton combien, tiens, 14 ans?
14,
là. J'ai arrêté de compter à 14 ans.
7h01 au FM 93. Mon nom est François-Jacques. Bienvenue dans Que Québec se lève en édition estivale. On fait tout de suite un tour de table. Félix-Antoine, que se passe-t-il dans l'actualité?
Les automobilistes de Québec sont mieux de prendre leur patience à nouveau aujourd'hui et pour toute la fin de semaine, parce que l'autoroute Henri IV va être fermée dans les deux directions toute la fin de semaine à la hauteur de Chemin des Quatre-Bourgeois en raison de la reconstruction des ponts d'étagement. L'entrave a commencé hier soir à 21h30 et les cônes orange ne seront pas retirés avant 5h30 lundi matin. Henri IV va être inaccessible en direction nord entre les boulevards Laurier et du versant nord et entre l'autoroute Charest et le boulevard Hochelaga pour ce qui est de la direction sud. Et les bretelles d'accès suivantes vont aussi être bloquées à la circulation. En direction nord, la bretelle en provenance du boulevard Hochelaga et celle en provenance du boulevard Laurier. En direction sud, les bretelles en provenance du versant nord et en provenance de l'autoroute Félix-Leclerc est et ouest. Dans le bilan quotidien de l'évolution de la COVID-19, on apprend que dans les dernières 24 heures, un total de plus de 120 000 Québécois se sont fait vacciner. Pour le bilan, on affiche 77 nouveaux cas et on déplore un décès. Et les jeunes âgés de 12 à 17 ans peuvent aller chercher leur deuxième dose de vaccin dans des cliniques sans rendez-vous, mais pas grâce à Clic Santé. Christian Dubé a annoncé sur Twitter mardi dernier que le gouvernement attendait toujours une décision du comité sur l'immunisation du Québec pour pouvoir faire la modification au groupe d'âge. Malgré la possibilité pour les jeunes de 12-17 ans de se faire vacciner après un écart de 4 semaines entre les deux doses, comme c'est le cas pour le reste des Québécois, la santé publique recommande toujours d'attendre 8 semaines entre les deux doses.
Météo.
C'est généralement nuageux à Québec, là. C'est assez frais présentement. Ça va se réchauffer par contre l'après-midi, maximum de 25. Ça va être ensoleillé et assez humide, humidex 30. Ce soir et cette nuit, minimum 11 degrés. Pour demain, dimanche, journée ensoleillée, faible probabilité d'averse, tard en après-midi, maximum 25. Et présentement à Québec, il fait 12 degrés.
Ben, Vez, tu t'es fait voler la météo, mais c'est correct. On était en train de jaser de ça quand l'émission commençait.
Non.
Ben là, Anne-Sophie
était occupée. Les sports ont disparu aussi.
Ah, c'est moi qui faisais les sports, c'est ça?
Non, c'est pas
vrai. Très bon, ça, on pourrait switcher, je fais les sports.
Généralement, les sports suivent les nouvelles, puis bon. Après, c'est la météo.
Moi, j'ai entendu météo, je suis folle.
Ouais, non, t'es pas folle,
j'ai entendu. C'est moi qui suis. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on a dû faire la semaine dernière, parce que je faisais les sports.
Ah.
Fait que je me donnais un break entre les deux.
Ah, OK. Non, mais je peux revenir demain si ça vous tente.
Vez, prends tes clics, prends tes claques, va prendre un souper de bonne fête, là.
Non, ça, c'est fait. Hier, c'est le bilan de chez le Canadien. Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on a retenues. Entre autres, Dominique Ducharme devrait perdre son étiquette d'intérim dans les prochains jours. Les négociations avec Philippe Dano, qui va devenir joueur autonome le 28 juillet, en fait, qui pourrait devenir joueur autonome, s'annonce difficile. Thomas Tatar, qui était dans mon pôle des séries à la boy, bon choix, ne reviendra pas la saison prochaine. Jonathan Drouin, Marc Bergevin a dit qu'il allait mieux, sans plus de détails. Et Corey Perry veut revenir malgré ses 36 ans, mais il a été quand même très utile pour le Canadien. Et Joël Bouchard a quitté l'organisation du Canadien. Il était l'entraîneur-chef du club école à Laval. Il devient entraîneur-chef des Gulls de San Diego, le club école des Ducks d'Anaheim. Probablement qu'il se rapproche de la Ligue nationale plus vite.
Plus qu'on pense.
Avec cette organisation-là qu'avec le Canadien.
Hey, ça, je la comprends pas, moi, Verzu. Je m'excuse, je fais une parenthèse, c'est rare, je le fais, mais... Depuis quand c'est automatique que tu deviens le prochain entraîneur-chef de ton équipe de la Ligue majeure quand t'es dans la Ligue américaine. Tu peux être considéré pour un poste à Pittsburgh, même si t'es l'entraîneur chef de l'équipe américaine de Montréal.
Oh oui,
il
mais...
était avec une équipe qui savait qu'il performait bien, qui était capable de bien se mettre en valeur. Là, tu changes d'équipe, tu te ramasses. Je comprends que le coach Eakin du côté des Ducks peut partir plus vite.
Disons que les pattes de sa chaise sont pas solides.
Oui, je comprends bien, mais il aurait pas pu se faire engager là de Montréal pareil, de Laval. C'est ça que je comprends pas.
Il aurait pu, sauf que c'est un avantage d'être déjà dans l'organisation parce que tu connais les joueurs.
Mais je veux dire, mettons que les goals sont pourris puis que l'équipe marche pas pantoute avec la philosophie de Joël Bouchard. T'es pas un peu dans les pieds? Moi, je trouve ça étrange. Je ne le comprends pas, ce move-là.
Sauf que Bouchard a prouvé qu'il était capable d'être un bon coach de hockey.
Oui, oui, mais...
Évidemment, ça dépend de la formation qui rentre les mains.
Oui, mais moi, je trouve que c'est un risque inutile. Je pense pas que ça l'aurait empêché. Est-ce que c'est avec le Canadien? Non, puis il le savait. Mais est-ce que ça l'aurait empêché d'avoir un poste dans la Ligue nationale quelque part d'autre, de rester avec une équipe que, un, il sait qu'il gère bien, que, deux, il sait qu'il peut avoir des résultats avec?
Vous écoutez Bon Matin les sportifs.
Oui, c'est cela.
Excusez, c'était mon interview. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un qui connaissait ça parce que je comprends pas.
Je devine que Joël Bouchard a fait ses devoirs puis il est allé regarder la formation de San Diego dans la Ligue américaine. Puis il a dû dire, on a des chances d'avoir du succès. J'ai des chances de développer des joueurs qui vont faire la Ligue nationale un jour. Puis j'ai des chances de monter dans la Ligue nationale plus avec cette équipe-là qu'avec Montréal.
Ah, ça se peut bien. Mais je trouve ça étrange pareil. Tu sais, c'est un move latéral que je vois, je comprends mal.
On y reviendra.
On y reviendra. Excusez-nous, on s'est emporté.
Ça fera l'objet d'une prochaine émission.
OK.
À part de ça, à Wimbledon, Denis Shapovalov a perdu, mais très honorablement, contre le premier joueur mondial, Novak Djokovic. 7-6, 7-5 et 7-5, qui a réussi à convertir seulement une des 11 balles de bris qu'il a eues durant le match. La différence s'est jouée pas mal là. Djokovic va affronter Matteo Berrettini demain en finale. Aujourd'hui, en fait, à 9h ce matin, c'est la finale des dames entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova.
Le problème que j'ai avec le tennis... c'est que normalement, j'aurais dit Berrettini, ça doit être un Italien, mais il n'y a aucun Canadien qui a un nom de famille qui sonne Canadien. Fait que j'assume aucune nationalité maintenant dans le tennis.
C'est vrai qu'Ogé Eliassim, ça fait très égyptien.
Eliassim, Djokovic...
Shapovalov,
ouais, c'est ça. Je m'y connais zéro.
Raonic.
C'est ça. C'est tous des Canadiens qui ont absolument pas un nom à consonance canadienne.
Ouais, c'est vrai.
Fait que j'assume plus rien côté nationalité quand j'entends le nom de famille d'un joueur de tennis.
Non, ben maintenant, avec... mais c'est pas un problème.
Ben c'est ça, ne voyez pas ça comme une critique, quoi que ce soit, j'assume plus rien.
Parfait.
Puis, tu sais, je suis pas en train de dire non plus que tous les joueurs de tennis du Québec devraient tous s'appeler Bouchard ou Tremblay, là.
Non, voilà. Mais il y en a un qui s'appelle OG.
Voilà.
Ouais, mais après ça, t'as Pospisil, t'as... Ouais. ça sonne pas plus
même
canadien
Andrescu.
D'origine, ben en fait... De nos racines.
C'est rendu glissant, hein, une conversation comme ça. Là.
Oui.
J'ai vraiment l'impression que tout le monde a compris ce que je voulais dire, puis tout le monde a compris que c'est du deuxième niveau, mais c'est tellement rendu politiquement correct des fois de discuter de ça que j'ai comme l'impression qu'il faut que je m'excuse, puis encore, il n'y a aucune excuse à faire là-dedans.
Non, tout à fait.
Fait que c'est tout.
Il suffit que quelqu'un t'ait pris. Un moment, arrêter un autre, puis là, soudainement, il y a une vision complètement différente de toi.
Quelqu'un qui a allumé la radio m'a entendu trois fois, cet homme est dégueulasse. je dépose une plainte.
Oui, et ça sera inondé sur les réseaux sociaux.
Exactement, je vais me ramasser sur Twitter et compagnie.
Probablement.
Là.
Et peut-être en prison.
Et voilà. ce matin, j'ai réalisé à quel point le trafic est horrible, parce que c'est rare comment que je me déplace tant que ça dans Québec. Là. Puis la semaine, je travaille en livraison, mais je passe pas sur les autoroutes. Mais là, ce matin, je pensais à Henri IV qui est fermé. Je pensais à toutes les rénovations qu'il y a eu sur le pont la semaine dernière. Je pense à Laurentienne qui a des constructions. Puis là, ce matin, en partant de Beauport pour m'en venir ici à la station, sur la capitale, direction ouest, il y avait des cônes qui bloquaient deux voies sur trois à 5h du matin.
Je pense que c'est du pavage dans le coin de Première Avenue.
C'est ça, mais on est la pire année. Tout est arrivé. Puis je comprends qu'il y a des rénovations, puis des réparations, puis des améliorations qui pouvaient pas attendre. Puis je comprends que ça s'est probablement parlé à tous les paliers du ministère des Transports. Là. Mais maudit été.
Je suis pas sûr, ça.
Non, il est cynique.
Non, mais non, ce qu'il faut, je pense, constater, j'ai pas la preuve, là, mais c'est quasiment évident. Les chantiers municipaux et provinciaux, eux autres, ils se parlent pas.
Ça se peut. Ça se peut très bien. Mais cette année-là, qu'il faut prendre notre mal en patience.
Ouais, mais ils en ont sûrement profité parce qu'ils se sont dit cet été, il va y avoir moins de monde sur les routes. Avec le télétravail, peut-être qu'ils se sont dit, ça va être moins pire qu'un été normal.
Il y a les vacances de construction là, qui s'en viennent
dans deux semaines. Ils ont comme...
ils veulent se dépêcher de faire ça avant les vacances de construction aussi.
Ouais. Mais c'est l'enfer. Là. Puis une chance que c'est l'été puis que, de façon générale, le trafic est... Il y a moins d'heures de pointe, il est plus réparti un peu partout.
Encore
dans la
plus
semaine.
Réparti avec le télétravail c'est en
ça.
Plus.
Ouais. Encore plus. Mm-hmm. Mais écoute, Vez, je te jalouse d'avoir été en vacances les deux dernières semaines.
Oui.
T'étais à l'extérieur, là.
J'étais à Québec, sauf la fin de semaine dernière, là, 3-4 jours, j'étais à la pêche.
À la pêche. T'as-tu mordu? T'as-tu pogné des gros de même?
Écoute, on était dans une pourvoirie dans Charlevoix, près de Sagard, puis. On était 7 pêcheurs et pêcheuses. On a rapporté, je sais pas, une trentaine de truites peut-être.
Hey!
Quand même.
C'est quoi le quota par personne?
Oh, je sais même pas. On était tellement pas proches qu'on s'est pas informé.
Mais pas 30 truites par personne.
Non.
Au total tout.
Dans une pourvoirie.
Ouais.
Parce que moi, quand j'allais dans une pourvoirie, quand j'avais comme 8 ans avec mes parents, des fois, j'en ramenais comme 20 par personne quasiment. Là.
Okay, ouais, je sais pas, ça dépend peut-être.
Ça
de
mortait,
fois.
Là.
Ça, je pense qu'il faut pas que tu le dises.
Là, oui, non, c'était légal, j'avais mon permis.
Ça essaie d'humilier Vez.
Mais juste te le dire, là, que j'ai ramassé 20 poissons tout seul quand j'avais 8 ans.
Non, mais écoute, c'est pas grave, bravo. Puis j'ai encore une fois été humilié la semaine dernière parce que sur la trentaine de poissons qu'on a rapportés, j'en ai pris une.
Oh!
À toute fin. Puis c'était une vraie joke, là. T'sais, on était, à un moment donné, on était deux chaloupes sur un même lac, un tout petit lac de rien. Le monsieur de la pourvoirie nous avait dit, ça se pêche là, puis là. Il y a deux spots, deux endroits. Ça fait qu'il y a une chaloupe qui va à une place, l'autre chaloupe à l'autre place. Ça fait que je suis avec une amie, puis dans l'autre chaloupe, c'est la fille de mon amie et son amie à elle. Dans l'autre chaloupe, là, ça sortait à Waidon un après l'autre, puis ça arrêtait pas. Nous autres, même pas une touche.
Puis c'est sûr que si t'avais changé de place, là, eux, ça aurait commencé à sortir de l'autre bord, puis t'aurais pas été capable.
Ça fait que j'ai dit à ma chum, j'ai dit, on va aller à l'autre place, on va aller se parquer à côté d'eux autres, puis on va essayer d'en prendre. On s'amène, on se parque à peu près à 100 pieds de l'autre chaloupe, tu sais, on se garde un espace. Eux autres continuent à en prendre, puis pas nous autres.
Mais t'es tellement en train de raconter l'histoire de ma vie.
Non, mais ça, c'est l'histoire de tout. C'est le phénomène de la file d'attente, là.
Ah oui, quand tu changes de file, c'est la selle que tu as choisie qui va finalement plus lentement, là. Alors, le peu de fois où je suis allé à la pêche, là, puis c'est une des raisons que j'aime pas la pêche. Déjà, pas que j'aime pas être dans le bois, là, mais je suis habitué à un rythme de vie rapide, de façon générale. Là, je me ramasse dans le bois, j'ai comme l'impression que j'ai rien à faire. Ce qui est une bonne chose pour beaucoup de gens, pour moi, moins. Mais non seulement ça, la dernière fois que je suis allé à la pêche avec mon père, mon frère, puis un de mes oncles, ça sortait de l'autre bord, puis moi, je vous le dis, là. Je disais à tout le monde qui était là, je vous le dis, là, la personne qui va embarquer avec moi, là, ayez pas trop d'attente, parce que moi, ça mord jamais.
Exact.
Puis l'ironie, c'est que j'étais avec mon frère, puis mon frère, ça mordait, dans le même bateau, puis moi, zéro.
Ah ouais.
Fait que là, rendu là, je suis comme, tu sais quoi, il y a une aura de malchance, là. Moi, je vais aller avec vous autres à la pêche l'année prochaine, mais je vais rester à la maison, puis je vais faire la bouffe.
Ou tu pêches mal aussi, peut-être. Peut-être que t'as une mauvaise technique.
Ou je pue. Quelque chose, je sais pas. Il y a chose que je fais avec les poissons.
Il y a une fois, on est sorti, on arrive sur le lac, on va se placer à un endroit qu'on nous avait dit c'était à la bonne place. Puis, tu sais, moi, je conduis, là. C'est moi qui tourne la poignée du moteur électrique sur le lac. Puis là, on jette l'angle, puis tout ça. Puis ma chum, elle lance sa ligne à l'eau. Paf, tout de suite, elle sort une truite, premier lancé. C'est parfait, on est dans un bon spot.
Nope.
Ça a pas mordu pantoute pendant l'heure et demie après.
Ah, ça, c'est bon.
Puis, c'est ça qui est le fun.
C'est comme un aimant négatif, moi, pour les poissons.
Puis, ça qui arrive, la pêche n'a aucun rapport nécessairement avec ton talent. Tu peux avoir les bons outils, tu peux mettre les chances.
Non, tu peux être bon pour taquiner le poisson comme du monde. Moi, je l'ai, la technique du taquinage.
Aïe, aïe. Anne-Sophie.
C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis bon machine à sous.
Ouais, c'est ça.
Moi, je l'ai. Moi, je tire ça comme il faut. Je lâche au bon moment, puis j'arrête l'écran quand c'est le temps.
Mais moi, je suis bonne pour taquiner le poisson.
Non, ben, on va t'inviter la prochaine fois.
Parfait.
C'est toi qu'on va mettre au bout du hameçon.
Anne-Sophie.
Quoi?
Blablabla. qu'est-ce qui... changeons de sujet. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'actualité cette semaine? Vous avez chacun probablement sorti des nouvelles. Moi, je vais commencer, je vais me lancer avec ça. Ça va être super court. C'est plus un commentaire que l'actualité qui m'a frappé. Mais j'en parle en connaissance de cause. Vous avez probablement vu passer les agents de sécurité qui demandent un bonus parce qu'ils sont travailleurs essentiels.
Ouais, on a une pub qui roule sur nos ondes avec ça aussi.
Je vais me garder une petite gêne, mais quand même, je l'ai été gardien de sécurité moi, l'année passée.
Oh!
J'ai un malaise avec le fait de demander un bonus. C'est pas comme si t'étais, mettons, à caisse dans une épicerie. C'est pas comme si t'étais obligé d'être en contact étroit et rapproché tout le temps. C'est pas comme si t'avais toujours à intervenir. De ce que j'ai vu, peut-être que je me trompe, mais je parle de ma propre expérience à moi. De ce que j'ai vu, là, tout ce que tu avais à faire en tant que gardien de sécurité, c'est de répéter les règles de sécurité à tout le monde. Mm. Puis de leur souhaiter une bonne journée. Puis dans certains cas, quand tu étais dans des CHSLD, quand tu étais dans des résidences privées de personnes âgées, ben, c'était de tenir un registre de qui rentre et qui sort.
C'est que physiquement, c'est pas très exigeant. Ta sécurité, ton intégrité physique est pas menacée.
Ben, tu sais, là, je parle avec aucune connaissance de cause. Là, c'est plus un questionnement. Là. Mm-hmm. De ce que j'en comprends, eux, leur principe, c'est qu'on a été des travailleurs essentiels de la même manière que des caissiers, caissières d'épicerie, de la même manière que que toutes les personnes qui ont été en contact avec des gens malgré que tout le monde devait être à la maison parce qu'on n'avait pas le choix. Puis eux, leur point, c'est que les autres travailleurs qui ont été en contact avec ces gens-là, qui auraient pu avoir la COVID, ont eu des primes de COVID.
Quelques-uns, pas toutes. Puis à un moment donné, c'est parce que si tous ceux qui ont travaillé pendant la pandémie sont considérés travailleurs essentiels, si tout le monde est essentiel, personne n'est rendu là.
Ouais.
Je pense qu'il faut tracer une ligne. Puis ça, c'est mon opinion. Je veux dire, je vais peut-être me faire des ennemis. J'ai des amis qui sont encore gardiens de sécurité, qui sont encore dans le domaine. Là. Mais j'ai un petit malaise avec le fait que, de un, demander une prime de travailleur essentiel, puis de deux, demander une prime de travailleur essentiel un an après que ça soit fini, si c'était si essentiel que ça à ce moment-là, ça aurait pu être soulevé au moment où les infirmières, au moment où les gens qui travaillent dans les épiceries, au moment où les gens qui travaillent sur la livraison... Un an plus tard, c'est-tu trop peu trop tard? T'as-tu manqué le momentum? T'as-tu manqué le bateau?
Ton argument a moins de poids un peu.
Ça, c'est ça. Là, je suis en total accord avec vous, mais ça me fait rire quand je pense, par exemple, à la grève des traversiers, tout récemment. On disait, c'est pas le bon moment, c'est le moment où ça fait le plus suer les gens. Attendez un moment où c'est correct. Puis là, on a, mettons, est-ce que c'est correct comme demande le bonus? C'est un autre débat. Mais là, on a une demande un an plus tard, quand on se dit, c'est plus un problème, on va plus faire suer personne avec une grève.
Il n'y a pas de grève rattachée à ça. Non, il ne peut pas y avoir de grève rattachée à ça. C'est une demande. Puis la demande est légitime, là, don't get me wrong. Là. Mais moi, personnellement, en tant qu'ancien gardien de sécurité, je me garde une petite gêne, puis je me garderai une petite gêne là-dessus.
Ouais.
Ils disent aussi qu'ils ont été en contact avec la COVID puis qu'il aurait pu avoir un danger, c'est ça?
Oui, c'est sûr, mais vois-tu? Puis encore là, je dis pas que tous les agents étaient comme ça. Mais moi, quand j'ai commencé, là, j'étais au Concorde. Je faisais de la surveillance pour des personnes âgées qui étaient en retrait, qui étaient comme entre deux situations de vie, sur un étage où les gens avaient pas de mobilité, où il y avait plus de... Les gens étaient plus là mentalement, là. Je veux dire, j'ai passé un mois assis à surveiller un corridor vide. Puis je dis pas que tout le monde est comme ça. Je veux clairement pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y a des agents de sécurité qui ont fait différentes choses que moi, là.
Non, mais c'est
perso,
sûr que
j'ai de la misère à considérer que j'étais un travailleur essentiel.
Mais c'est sûr que t'as une vision de l'intérieur que nous, on n'a pas, là. C'est sûr que ton avis là-dessus vaut un petit pesant d'or, là.
Quelqu'un d'autre veut se lancer, Anne-Sophie, mettons?
Oui, OK.
À ma gauche. Ben, on va y aller en ordre alphabétique de grandeur.
À la base, je voulais vous parler des débordements dans les urgences parce qu'on sait que ça a été une grosse nouvelle cette semaine. Mais ce matin, alors que je faisais couler mon café, mes yeux ont détourné vers le Journal de Québec et je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler de cette nouvelle. Il y avait une grosse poutine sur la couverture du Journal de Québec et ça a retenu mon attention tout de suite. Le nom de la nouvelle, « Votre poutine plus chère cet été ».
C'est déjà cher, hein?
C'est déjà cher. Pardon. Scandale, moi. Scandale. Ma poutine plus chère, déjà que. Des fois, c'est 10$ une poutine maintenant.
Une petite, là.
Washington, c'est cher aussi, puis c'est bonne. Fait que je le mets. Mettons, moi, quand je mange une poutine, c'est Washington. Ça me dérange pas de payer un peu plus parce que c'est la meilleure, selon moi. Je sais pas si je vais avoir un. On va partir un débat là-dessus, là. Quelle est la meilleure poutine?
Je me retiens parce qu'on pourrait en jaser. Hier, ça a été un gros débat, dans l'émission du retour. Ouais. Hein.
Oui.
Retenons-nous. Je veux juste dire que je pense que la première poutine qu'on mange, c'est celle qu'on aime pour le restant de nos
OK, jours. Moi, c'était Ashton la première. Voilà. Bon, c'est bon.
Moi, c'est Stratos.
On apprend que les poutines seront de plus en plus coûteuses dans le mois à venir en raison de la hausse des prix de tous les ingrédients de la poutine, donc l'huile de canola, le fromage, les patates. Dans l'article du Journal de Québec.
La sauce, non?
La sauce, non. C'est la seule chose qui est moins chère.
OK.
Ben, c'est le même prix, mettons. Puis, un propriétaire de casse-croûte de l'article disait que lui, sa poutine était 16,15 l'an dernier et maintenant, il doit la vendre à 8,15. C'est juste $1 de plus, mais quand tu y penses, c'est quand même une pièce. Tu manges tout le temps de la poutine. Moi, je pense pas que c'est bon de manger la poutine chaque jour.
Si tu manges tout le temps la poutine, il faut peut-être aussi que tu révises certaines
c'est
priorités.
T'as peut-être d'autres problèmes.
Moi, mettons, c'est ma poutine aux 2 semaines. Une fois.
Aux 2 semaines?
Ouais, aux 2 semaines.
Hey boy.
Qu'est-ce que ton budget va s'y remettre? S'en remettre, c'est quand même, écoute, 24 $ par année.
Ouais, quand
vas-tu
même.
Survivre?
Par année. Mais non, c'est plus que ça.
Ben, 1 $ par mois, par 2 semaines.
C'est 26 semaines. 26 poutines, il y a 50
OK, oh, ouais, mais là, moi, je comptais ça en mois, 4 semaines par. Là, ouais, comment
c'est? Non, mais un peu de rigueur.
Une poutine aux 2 semaines, c'est pas pire.
Oui.
C'est bon.
Moi, c'est aux 2 mois.
Aux 2 mois?
Ben,
on n'a pas le même métabolisme, peut-être.
Voilà. On n'a pas la même shape non plus.
Non, mais tu manges la poutine, puis le lendemain, tu t'entraînes le double du temps. Là. C'est pas pire.
Ah, c'est ça le truc!
Ben oui!
S'entraîner?
C'est quoi ça? C'est un mot que je connais pas.
Non, c'est
un mot latin.
Non? Oui. Entrenado. C'est espagnol. Mais ce qui est vraiment plus cher cette année, c'est l'huile de canola dans la poutine pour faire cuire les frites. Le même propriétaire dit dans l'article qu'il doit passer environ 20 contenants de 16 litres d'huile de canola par semaine. Et l'an dernier, un contenant, c'était environ 20 $. Cette année, 40 $. Alors, le double du prix. Direct, là, ça avait fait 500 $ comme les poubelles.
Encore content que la poutine n'a pas doublé de prix?
Non, c'est ça. On se dit déjà, l'huile double de prix, est-ce que la poutine aurait dû...
Bon, parce que tu prends la même, Oui, mais quand même.
Les patates, elles, sont 12% plus chères depuis janvier. Puis le prix du fromage a augmenté aussi. Puis une autre chose, là, j'embarquerai pas là-dedans en détail, mais la pénurie de main-d'œuvre a aussi un effet parce que les jeunes travailleurs demandent des salaires plus élevés. Dans l'article, on parle des jeunes qui demandent 20 $ de l'heure pour travailler dans un casse-croûte. Fait qu'il faut qu'ils payent ces jeunes-là aussi. Fait qu'au final, la poutine monte de prix. Alors, faites-vous un budget poutine. Moi, je vais faire ça. Un petit 8 $ par semaine de plus là, pour pouvoir prendre ma poutine quotidienne. Non, pas quotidienne, aux 2 semaines quand même.
Bon, il nous reste 2 nouvelles, puis on n'a pas énormément de temps avant de partir en pause. Fait que j'ai un dé dans mes poches. De 1 à 3, c'est Vez, puis de 4 à 6, ça va être Félix. Vez.
Alors, je donne mon choix à Félix parce que moi, ma nouvelle de la semaine, c'était mon gros voyage de Pâques.
Ah, c'est correct. Parfait,
mais il y a aussi la fin de la finale de Coupe Stanley, évidemment, qu'on a eu cette semaine, mercredi.
Là, Vez, t'as décidé de me laisser, là. Je pense pas.
Mais c'est ça, je te laisse. Mais c'est ça. Voilà.
Parfait. Ben, écoute, ça vient de régler le problème. Félix!
J'ai vu ça passer, moi, ça m'a bien fait rire hier. Ben, rire, c'est un grand mot, là, mais c'est Éric Duhaime. Et le Parti conservateur du Québec qui avait une drôle de pratique pour leur rassemblement. Puis c'est pas, là, je me lancerai pas dans le champ de mine qui est de parler de l'idéologie du Parti conservateur pour ou contre. Oui. Là. Je parle simplement de la pratique qu'ils avaient, qui était d'organiser des événements, des petits rassemblements dans des restos pour des lunchs sans avertir les restaurateurs. Eux, ils organisaient l'événement. Oui, oui, ben on se rejoint tous à ce resto-là pour dîner puis jaser. Sauf que les restos en avaient absolument aucune idée, puis ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec un rassemblement politique. Il y en avait que c'était parce que c'était principalement un parti conservateur. Il y en a d'autres que c'était parce qu'ils ne voulaient simplement pas de politique dans leur restaurant. Mais là, ça a fait que, en boucle, là, je pense que c'est 4 restaurateurs en moins de 2-3 heures qui ont annulé les événements du côté d'Éric Duhaime. Donc, bonne partie des événements qui étaient prévus dans la semaine ont dû être annulés. Là.
Moi, j'ai une question là-dedans, puis j'ai pas de réponse. Okay? Je vais juste lancer la question. Mais est-ce que à partir de maintenant, quand tu organises quelque chose au restaurant, faut que tu avertisses le propriétaire de quelle sera la teneur de ton événement? Parce que, tu sais, ça aurait pu être la fête de quelqu'un. Là.
Quand je pense...
Ça aurait pu être... N'importe quel autre... Ça aurait pu être un souper d'organisation pour le festival de la poutine de Saint-Agapit. Ça aurait pu... N'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que maintenant, quand tu prends une réservation au restaurant, il va falloir rajouter le champ? Pour quelle raison réservez-vous le restaurant? Ou ça peut rester quand même à la discrétion de la personne qui organise le souper?
Je pense qu'il y a une petite distinction à faire quand tu parles d'un rassemblement politique. Parce que tu héberges un rassemblement politique, puis souvent, de la part d'un établissement, ben pas tout le temps, mais ça peut être un espèce de statement qui est fait comme « Ah, on est derrière ce politicien, l'accueille pour son événement ».
Puis, comme je te dis, je fais juste poser la question parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça ouvre une boîte de Pandore rendue là. Parce que tu peux venir qu'à refuser des événements à saveur religieuse, tu peux venir qu'à refuser des événements à saveur sportive. Tu es un fan des Bills, tu veux pas voir les fans des Patriots avoir un rendez-vous dans ton restaurant, puis pour des raisons personnelles en tant que propriétaire d'entreprise.
Non, puis avec les réseaux sociaux, ça prend pas grand-chose pour que ça parte.
Puis vous comprendrez que je pousse l'exemple à l'extrême.
Avec François Legault cet été, au début de l'été, quand il est allé manger sur une terrasse avec son épouse, je me semble, à Montréal. Puis ça, je me souviens plus pourquoi ça avait parti de travers là.
C'est pas Valérie Plante qui était allée avec trois personnes que tu parles?
Oui.
Peut-être aussi.
La même semaine, Denis Coderre s'est fait pogner avec son sel au volant, puis elle a été au restaurant avec trois autres personnes. C'est ça qui s'était passé, là. C'est comme la guerre.
Puis comme je dis, c'est parce qu'il y a deux clashs là-dedans. Là. Il y a le droit à l'opinion, puis le droit d'affiliation de ton entreprise avec quelqu'un. Mais il y a aussi le droit à quelqu'un qui organise un souper d'organiser un souper à quelque part, là, sans nécessairement se faire taper ses doigts tout le temps. Tu sais, c'est un long débat, mais j'avais vu passer la nouvelle aussi, puis tu sais, j'ai vu en fait passer la nouvelle de la part du propriétaire du restaurant.
Oui.
Qui avait dit qu'il n'était pas allé avec le dos de la cuillère morte.
Oui, il y a une raison pourquoi je ne le cite pas en onde aujourd'hui. Bonjour les enfants.
Exactement. Hey, 7h26, on va aller en pause. On vient de faire une tournée de l'actualité sérieuse. Mais je fais une petite parenthèse. J'ai depuis 2012-2013 un podcast où je fais une revue sympathique et humoristique de l'actualité. Fait que tous les samedis matins, trois fois par avant-midi, on aura les nouvelles d'hier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux nouvelles d'hier du samedi 10 juillet 2021. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé un assouplissement des mesures de distanciation sociale dès lundi, au grand bonheur des Seuses qui trouvent que la dictature sanitaire a assez duré, pour ensuite annoncer la mise en place d'un passeport vaccinal en septembre, au grand malheur des Seuses qui trouvent que la dictature sanitaire a assez duré. Carl Petitclerc, porte-parole du ministère de la Santé, nous explique. C'est très simple. Dès lundi, il n'y a pas de masque si t'es dehors. Sauf si t'es avec du monde que tu connais pas. Là, tu mets un masque, mais c'est plus à 2 mètres. C'est à 3 pieds. Sauf si t'es en dedans avec des inconnus. Là, ça devient 2 verges. Sauf si le système de filtration est assez fort. Là, c'est 1 coudée et demie si le vent va à 2 nœuds puis tu laisses à une brasse des gens vulnérables. Sauf s'ils sont vaccinés à 2 doses, mais pas tant que les 18-29 sont pas vaccinés à 75%. Ça me semble clair. On n'a pas osé lui demander d'élaborer sur le passeport vaccinal. Les grosses gommes libérales étaient à Québec mardi pour annoncer le début de l'annonce d'une ébauche de plan d'un train à grande fréquence dans l'axe Québec-Toronto, une annonce à saveur pas du tout électorale, afin d'enfin réaliser le rêve de tous les Québécois, se rendre plus rapidement en Ontario, hashtag sarcasme. Le projet, d'une valeur estimée de 6 à 12 milliards de dollars, ou essentiellement ce que Justin Trudeau dépensait en environ 54 secondes au plus fort de la pandémie l'an passé, permettra d'améliorer l'efficacité de l'horaire des trains de passagers de 65 à 95%, reliera Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa et Toronto, et permettra aux 2,6 députés restants du Bloc québécois de quitter le Parlement plus rapidement parce que, selon les dires même d'Yves-François Blanchette, Ottawa, ça pue les Anglais, puis si un Québécois reste trop longtemps, sa peau se met à fondre comme les nazis à la fin d'Indiana Jones, yark, 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 les Anglais. Michel Langlois, doyen des Hells Angels, n'aura pas le droit de porter les couleurs de son organisation lors de sa sortie de prison. Sky, de son surnom, ex-président provincial et national, âgé de 74 ans, aurait... Excusez, j'ai de recevoir un mémo du département légal qui me recommande fortement de ne pas faire de joke à propos des Hells et aussi de changer de sujet. Je peux même pas faire un petit joke? Ah, OK, c'est beau. De plus en plus de personnes sont victimes de discrimination quand vient le temps de se trouver un logement, selon différents organismes communautaires de la province. Alors que certains nouveaux arrivants sont accueillis à bras ouverts, certains se font claquer la porte au nez, comme un témoin de Jova le dimanche matin qui te demande si t'as entendu parler du royaume de Dieu avec la tour de garde dans les mains puis le pied dans la porte. Certains propriétaires poussent même la note très loin, comme celui-ci, enregistré à son insu.
Moi, rien contre eux autres, mais si tu veux, ils viennent pas d'ici. Ils parlent pas comme du monde, ils se ressemblent tous. Ça se tient en gang, ils ont tout le même nom de famille. Mettre du fromage râpé sur le poutine, moi, leur loue pas. On est à Québec, ici. Ça part du Saguenay, puis ça vient voler nos jobs à Québec. Check Myriam Seyal. Retourne dans ton pays, le lac Saint-Jean.
Et enfin, vu qu'à Montréal, on saccage quand on gagne puis on reste civilisé quand on perd, c'est sur un fond de bruit de criquets et de s'il vous plaît merci que le Canadien a été éliminé mercredi contre le Lightning à Tampa Bay en 5 matchs par la marque de 1-0, mettant fin à une saison à la fois écourtée et interminable. La prochaine saison ne débutant que le 12 octobre, on aura donc droit à 3 mois sans entendre parler de hockey. Si on ne tient pas compte de la période de rachat des contrats, les signatures des joueurs autonomes, le repêchage, la formation du Kraken de Seattle, les camps d'entraînement et les matchs de pré-saison, ramenant ça à quelque chose comme 3 jours. Pendant ce temps-là, on va se crinquer avec le Montréal Football Club et essayer de se faire croire qu'on tripe sur le soccer. C'était les nouvelles d'hier du samedi 10 juillet 2021, hors série numéro 1. Mon nom est François Jacques, suivez-moi sur lesnouvellesd'hier.com. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles en retard sur tout le monde.
Québec se lève. De retour.